Les carottes sont cuites, je répète, les carottes sont cuites, Le loup est dans la bergerie, je répète, le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer, je répète, le groove perdu, va commencer,
Salut à vous et bienvenue sur votre radio locale à la recherche du groove perdu, session numéro 391. Une émission à géométrie variable produite depuis 2011, diffusion radiophonique en mars 2022 et avril 2022 sur les ondes de RDWA, Radio Dragon et Radio Saint-Afrique. Cette semaine, quatrième émission du cycle d'émissions intitulé C'est pour Kiki qu'on va voter pour une série d'émissions sur ce grand rendez-vous de notre démocratie représentative française. Je veux parler bien sûr des élections présidentielles qui auront lieu en avril prochain. C'est le moment privilégié et la rencontre des Français avec leur futur monarque, celui qui fera la pluie, le beau temps pendant les 5 prochaines années. Et c'est pour ça qu'on en parle. Dans les émissions précédentes, on a parlé de ceux qui n'iront pas voter parce qu'ils n'y croient plus à cette représentation. On a parlé de la droite dite républicaine, le RPR, l'UMP, aujourd'hui les LR, et on a parlé, celle d'avant, de l'extrême droite et des idées de Zemmour, Le Pen et autres Dupont-Aignan. Et bien pour balayer l'ensemble des tendances politiques avant l'échéance finale, on va faire un tour d'horizon cette semaine à la gauche de l'échiquier politique, et celle suivante ce sera l'extrême gauche. Pour celle qui est de cette semaine, donc cette gauche que j'appellerais la gauche de gouvernement, celle qui a déjà pris les commandes du pays par le passé, je veux parler du Parti Socialiste, des communistes et puis des écologistes. Une gauche qui a déjà gouverné ensemble, c'était sous la mandature de Jacques Chirac avec Lionel Jospin comme Premier ministre entre 1997 et 2002. On l'appelait alors la gauche plurielle. Les candidats de cette gauche à cette présidentielle de 2022 sont les suivants: Anne Hidalgo du PS, Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, Fabien Roussel du Parti Communiste et enfin Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Quelles sont les valeurs traditionnelles de cette gauche? J'ai fait le même exercice pour les autres bords politiques, on va dire, sans trop se mouiller, égalité, soirée djembé, lutte des classes, justice sociale, solidarité, tout ça permettant d'œuvrer pour une meilleure répartition des richesses. Il faut ajouter à cela des causes plus récentes comme la lutte contre le dérèglement climatique et une planification écologique permettant de décarboner l'économie. Un courant politique jadis du côté des travailleurs, des petites gens. Un courant qui conspuait les capitalistes, le monde de la finance et la libéralisation de l'économie. Tout ça, c'était avant, ça c'est du tableau noir, de la théorie, car dans les faits, comme on va le voir, il y a bien longtemps que la gauche, en tout cas une partie de cette gauche, est détournée des préoccupations du peuple. Le Parti Socialiste tout particulièrement, qui a abandonné son idéal socialiste justement en 1983 pour adopter un programme de rigueur, d'austérité budgétaire, et appliquer un programme économique très libéral. Le premier homme qu'on va éplucher en détail cette semaine sera Robespierre, une des figures les plus anciennes assimilées aux valeurs de gauche, une figure de la Révolution française, pourtant rangée au banc des accusés, des vilains et des assassins. Il y a eu deux révolutions, deux réalités successives et opposées. D'abord, de 1789 à 1792, la prise du pouvoir par l'oligarchie financière. C'est ça la première révolution, et c'est pas une révolution, c'est une réforme. C'est la monarchie qui subsiste, contrôlée par la bourgeoisie d'affaires. La date capitale, le tournant, c'est le 17 juillet 1791, lorsque la bourgeoisie jette le masque après s'être servi des pauvres et leur tire dessus. Deuxième révolution, après cet événement, la vraie cette fois, ce sont les pauvres, les ouvriers, les paysans qui sont à l'œuvre. Et ça a saigné, c'est la mort du roi, c'est la terreur. Et Robespierre sera un des principaux acteurs de cette deuxième partie de la révolution, même s'il sera guillotiné lui aussi après un travail de sape de la convention. Petit rappel des idées de cet homme qui fait beaucoup jaser, à droite comme à gauche, on écoute Henri Guimain, historien. C'est parti.
L'image traditionnelle de Robespierre, vous la connaissez, enfin telle que je l'avais apprise moi-même dans les livres de Louis Madelin, qui faisait autorité quand j'étais étudiant. L'image d'un incorruptible, c'est entendu, mais en même temps une espèce de pion âcre, enfin un fanatique glacé, une espèce de cuistre guillotineur, si vous voulez. Alors immédiatement, on opposait le visage de Danton en vous disant « oui, bien entendu, beaucoup moins incorruptible, mais Danton, c'est tout de même l'homme de l'audace, encore de l'audace, c'est un homme duquel sortait une chaleur humaine, tandis que ce petit monsieur propret, mais aux mains sanglantes, quelle horreur. » Mains sanglantes, ça me fait penser à l'image que j'ai vue en entrant, où le nom de Robespierre est accompagné de sang qui coule. Alors, est-ce exactement comme ça qu'il faut le voir? J'en suis pas sûr. Je vais vous lire, ce texte est tout court, là, la phrase essentielle, je vais vous lire lentement. C'est du Robespierre, 1688. La plus grande partie de nos concitoyens, la plus grande partie, est réduite par l'indigence à ce suprême degré d'abaissement où l'homme, uniquement occupé de survivre, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. C'était terrible de demander ça, ne pas de dire aux gens, vous allez réfléchir aux causes de votre misère. Vous êtes des exploités, vous êtes des malheureux, prenez-en conscience. Vous comprenez que c'était terrifiant. Alors un homme qui dit des choses comme ça se fait repérer tout de suite. Et même il va encore plus loin, il va prononcer un mot terrible à la tribune, il va parler d'hypocrisie, vous entendez, hypocrisie à propos de la Déclaration des droits de l'homme. Pourquoi donc? La Déclaration des droits de l'homme votée à l'unanimité avait pour article principal, vous le savez, c'est assez souvent cité, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Hein, c'est la grande phrase de la Déclaration des droits de l'homme. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors Robespierre dit, ben nous avons tous voté ça, mais quelle application en faites-vous? L'égalité? Ah ben je ne la vois pas, l'égalité. Ces hommes qui sont tous égaux. Alors pourquoi avez-vous distingué les Français en deux groupes, les citoyens actifs, les citoyens passifs, d'après leur argent? Ils sont tous libres? Ben, il y a aussi les citoyens noirs, puisque la France avait à ce moment-là encore quelques colonies, surtout dans les Antilles. Il avait demandé l'abolition de l'esclavage. Le lobby colonial était extrêmement puissant à la Constituante, avec Lafayette, entre autres, s'y était absolument opposé. La Constituante a maintenu l'esclavage. Et Robespierre disait, hypocrisie de dire que tous les hommes, puisque les hommes noirs, vous voulez laisser en esclavage. Et puis il y a d'autres esclaves qui ne sont pas noirs, qui sont blancs. Ce sont ces ouvriers auxquels vous interdisez de se coaliser pour défendre leur salaire. Je dis donc le mot hypocrisie parce que ni l'égalité ni la liberté ne sont respectées par vous. Alors je vais vous citer maintenant un texte du Journal de Paris. Il y avait quatre grands journaux à Paris à ce moment-là. Le Journal de Paris du 28 octobre 1689. C'est tout petit. C'est un compte-rendu de la séance de la veille. La séance donc du 27 octobre à l'Assemblée nationale. Cette phrase est inouïe. Elle est donc du Journal de Paris. Hier, monsieur de Robespierre est encore monté à la tribune, point. On s'est rapidement aperçu qu'il voulait encore parler en faveur des pauvres, point. Et on lui a coupé la parole. Voilà comment ça s'est passé. Alors le malheureux Robespierre, quand il voit que cette révolution a pratiquement avorté, il s'aperçoit que ce que l'on a appelé la Révolution française, c'est une rixe de possédants, c'est une bagarre de nantis entre richesse mobilière et richesse immobilière, mais sur le dos de ce que Victor Hugo appellera la cariatide, c'est-à-dire les pauvres, les prolétaires, les travailleurs. Lui, dit Robespierre, cette révolution est ratée, espérons qu'elle va reprendre sous une autre forme, et il propose une mesure suicidaire à ses collègues les députés. Il leur dit, nous devrions décider qu'on ne va pas se présenter à la législative. Vous savez, la Constitution prévoyait qu'il y avait une chambre qui s'appelait l'Assemblée législative. On allait les lire à la fin de l'année 91. Robespierre espérant que le changement d'un personnel politique amènerait peut-être au pouvoir des gens plus soucieux d'équité, dit, ben, nous tous qui sommes là, hein, on ne se représentera pas aux élections, on laissera des jeunes gens venir. Comme il fait cette proposition et qui dit, moi je ne me présenterai pas, les autres n'osent pas dire non, alors il est entendu qu'aucun membre de l'Assemblée constituante ne pourra faire partie de la législative.
Quelque part le long du boulevard Patrice Lumumba. Bénévole malgré lui, ce militaire n'a pas perçu sa solde depuis des mois. Alors il se débrouille, vit de magouilles et autres extorsions de fonds. Son arme et son gagne-pain. S'il la perd, il meurt de faim, touche le fond. Le fond, il l'a touché il y a quelques mois, en continuant d'espérer qu'un jour, l'État le paierait. Mais les heures paraissent des jours quand la faim vous tiraille, et les jours des années quand les enfants braillent. Alors il s'est résigné à faire comme le policier, le juge, et donc à embrasser le système D. Tous les jours, il se poste au feu rouge, guette la Mercedes et la braque, traque la moindre faille, invente des irrégularités. Peinture non conforme ou carte bleue périmée, toutes les raisons sont bonnes à saisir pour justifier la lourde amende qu'il inflige sans pitié. Le paiement s'effectue en liquide sur le champ, égard à tous ceux qui n'auraient pas d'argent, car l'État a démissionné depuis longtemps, abandonné le peuple à sa misère. On erre, on se débrouille, à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, Dieu seul sait. Sous le règne du système D, l'État a démissionné depuis longtemps, abandonné le peuple à sa misère. Et comme la fin justifie les moyens, l'incorruptible est mort. L'argent est là, mais on ne le voit jamais. On ne voit que les grosses voitures des ministres, leurs belles femmes et leurs grands palais. Les routes sont détruites, les enfants ont faim d'avenir et de pain. Et non, ces maudits pots de vin qui gangrènent les esprits et corrompent l'incorruptible. Cet homme qui place l'intérêt collectif avant le sien. Mais ici, ce type-là passerait pour un saint. Car ici, tout s'achète du diplôme au scrutin. Convaincre un homme de voter pour toi est enfantin. Un bon repas et tu sais ce qu'il fera de son bulletin de vote. Ici, on parle comme Tiken de manger crassie. L'élite s'enlise dans une parodie de démocratie, alors que le peuple est au bord de l'asphyxie. J'ai vu un étudiant brillant diplômé en droit vendre des beignets pour arrondir ses fins de mois. Ou encore un juge qui a connu la faim, mal payé malgré tout son règne était de mettre fin à cette corruption pandémique qui s'étend de l'élite. À la base, le règne du passe-bras où ton argent te donne tous les droits. Tout s'achète, même la morale. Car l'État a démissionné, depuis longtemps abandonné le peuple à sa misère. En air, on se débrouille, à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, Dieu seul sait.
Voilà pour ce petit rappel sur les idées de Robespierre, un rappel signé Henri Guillemin. On avance dans le temps. Ce courant de pensée inspiré par Robespierre et d'autres hommes ayant des idées proches va se traduire au début du XXe siècle par le socialisme. Karl Marx utilisait de manière indifférenciée socialisme ou communisme pour désigner une société sans classe, une société où l'économie est régie, encadrée, planifiée par l'État et non soumise au dictat des marchés financiers du grand capital. En France, les grandes figures du socialisme ont été Jean Jaurès, mort en 1914, Léon Blum, mort en 1950, ou encore Pierre Mendès-France, mort, lui, en 1982, un an après l'avènement de tonton François Mitterrand. Mitterrand, le premier fossoyeur de la gauche, il est élu en 1981 avec 52% des voix exprimées au second tour, face au président sortant, VGE, Valéry Giscard d'Estaing, élu d'une courte tête, mais élu quand même avec un programme très très à gauche qui impliquait une rupture nette et radicale avec les politiques libérales menées par la droite et les centristes depuis environ 30 ans. Il applique très vite ce programme qui contenait en tout 110 propositions et reste dans cette ligne directrice jusqu'en 1982-1983. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là ou qui étaient trop jeunes, ce qui est mon cas, voici les principales mesures mises en place au début du septennat Mitterrand. On écoutera ensuite le Kingston Tonton Riddim. À toutes. L'État a démissionné depuis longtemps. En 1981, après 27 ans à droite, la France bascule à gauche. François Mitterrand est élu président de la République. C'est l'heure du changement, le socialiste veut aller vite avec son premier ministre Pierre Mauroy. Retour sur certaines de ses réformes qui ont marqué le début de sa présidence. Premier objectif, augmenter le SMIC. C'était l'une des promesses de Mitterrand et s'est fait le 1er juin 1981, 22 jours seulement après son élection. Le gouvernement accorde un coup de pouce de 10%.
L'augmentation dont vous allez bénéficier, si vous deviez la consacrer à des achats, à une consommation quelconque, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous achèteriez en priorité?
J'achèterais les vêtements d'abord.
Autre promesse, celle de mettre fin au monopole d'État sur les radios. Là aussi, c'est fait dès le début du mandat de Mitterrand. Les radios pirates ne sont plus illégales, elles deviennent des radios libres.
Certains de leurs créateurs regretteront peut-être le temps de la clandestinité où, d'une cave ou d'un toit, on pouvait diffuser à l'aide d'un léger émetteur comme à Reims où Radio Manivelle sévissait il y a encore 2 ans.
Autre grande réforme voulue rapidement par François Mitterrand, l'abolition de la peine de mort. Elle fait partie des 110 propositions de la gauche pour la France. À la manœuvre, Robert Badinter, alors garde des Sceaux. Le 17 septembre 1981, très ému, il défendait son projet de loi à l'Assemblée nationale.
J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
C'est officiel. Le 30 septembre 1981, la loi est adoptée. La peine de mort est abolie. Les mois suivants, d'autres réformes s'enchaînent. Janvier 82, nouvelle avancée sociale. Une ordonnance abaisse la durée légale du travail et instaure la 5e semaine de congés payés.
C'est une avancée sociale très importante, car pour la première fois depuis 1936, on vient d'abaisser la durée légale du travail. 39 heures au lieu de 40 heures.
1982, toujours, autre réforme. Yvette Roudy, alors ministre des Droits de la Femme, veut rembourser l'IVG. Le 10 décembre, elle vient présenter son projet de loi devant une assemblée nationale à moitié vide.
Et la feuille de sécurité sociale que l'on signe, c'est pour elle la levée d'une certaine forme de réprobation sociale qui pèse encore trop souvent sur un acte que les êtres humains adultes que les femmes sont devenus, n'en déplaise à certains, un acte qu'elles n'accomplissent jamais de gaieté de cœur.
La loi Roudy est adoptée le 20 décembre 1982. D'autres réformes ont marqué le début de la présidence de Mitterrand. La création de l'ISF, la retraite à 60 ans, ou encore les lois de nationalisation de 1982.
Depuis plusieurs semaines, depuis le début de la campagne présidentielle, je sillonne notre pays. J'y ai même rencontré un certain nombre d'entre vous. J'ai vu votre inquiétude, j'ai partagé vos espérances. J'ai vu votre inquiétude. De toutes les forces dont nous disposons, il faut maintenant sortir la France de l'état moral et matériel où l'on mise les personnes et la politique qui nous gouvernent depuis 7 ans. Le désordre est partout. Il est dans le chômage, près de 2 millions de chômeurs. Il est dans la vie chère. Vous le savez mieux que personne. Il est dans une société qui rejette sa jeunesse. Le désordre est dans les difficultés que rencontrent les personnes âgées, dans l'inégalité qui frappe les femmes, au travail et dans la vie de tous les jours. Dans l'impossibilité où se trouvent les uns d'emprunter, les autres de se loger ou de payer leurs charges locatives. Le désordre est dans la disparition de 100 000 exploitations familiales agricoles, dans l'accélération des faillites et des liquidations judiciaires. Il est dans la façon dont les travailleurs, ouvriers, employés, cadres sont tenus à l'écart de la gestion et de l'information dans leur propre entreprise. Bref, le désordre est dans l'injustice. Là, le privilège et le luxe insolent, et de l'autre côté, la grande masse des gens, la plupart des familles, qui ont de la peine à joindre les deux bouts. On nous dit, c'est la crise, bien entendu, c'est la crise. Et il est vrai que le monde occidental a quelques difficultés à s'adapter aux progrès de la science et de la technique à faire que l'homme ne soit pas tout à fait écrasé, éliminé par la machine. Et pourtant, ne nous y trompons pas. On ne sortira pas de la crise par les moyens jusqu'ici employés.
On ne sortira pas de la crise. Bon voilà, sur fond de reggae music, les beaux mots de Mitterrand durant sa campagne de 1981. Des beaux mots qui ont été un programme qui a été appliqué durant deux ans, deux petites années seulement, car en 1983, c'est le tournant de la politique du gouvernement de Pierre Mauroy, alors Premier ministre. Fini les mesures sociales en faveur des travailleurs et bienvenue à la rigueur budgétaire et au libéralisme économique. 1983, quand la gauche a basculé à droite, on écoute François Ruffin nous raconter cet épisode important dans l'histoire de la gauche française. On écoutera ensuite Winston McAnuff, Hypocrite and Parasite. Et oui, je m'émerveille devant cette
volonté de travail. Il fallut donc assumer. Et Pierre Mauroy assuma. Le sérieux budgétaire, le blocage des prix et des salaires, les restructurations industrielles. Il avait surtout compris que le destin de la France passait par l'Europe, que faire cavalier seul pouvait finir en une cavalcade sans lendemain. La rigueur, c'était la condition pour poursuivre la réforme, le changement. Le rôle historique de Pierre Mauroy se révéla dans ces semaines décisives du printemps 1983, lorsque se jouèrent le sort de la France et l'avenir de l'Europe. Il sut alors convaincre François Mitterrand, avec le concours de Jacques Delors, pour rester dans le système monétaire européen et ainsi de préparer la création de l'euro.
Voici M. François Mitterrand, nouveau président de la République depuis ce soir.
Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. À tous, je dois, et l'honneur, et la charge des responsabilités qui désormais m'incombent.
Quand on entend Hollande sur la réforme des retraites, sur le SMIC gelé, sur sa soumission finalement en général à la finance, aux diktats de Bruxelles et de Berlin, on se demande, mais depuis quand la gauche mène, sur le plan économique et social, une politique de droite? Cette question à Fakir, on y a répondu. Pour nous, la bascule, c'est 1983, et c'est même beaucoup plus précisément, en gros, entre le 13 et le 23 mars 1983, que se fait, finalement, que la gauche est assassinée ou qu'elle se suicide. Pour comprendre ce qui se passe en 1983, il faut remonter à la mi-1982.
Pierre Mauroy se consacre à la construction de ce qu'il appelle le socle du changement. Les grandes réformes sont mises en chantier et adoptées plus ou moins facilement par les parlementaires, la décentralisation qui donne plus de pouvoir aux collectivités locales, les nationalisations qui concernent 39 banques et 5 groupes industriels. Parallèlement, le gouvernement augmente le SMIC, les allocations familiales, l'allocation vieillesse et institue un impôt sur les grandes fortunes.
À ce moment-là, on a opéré une relance en France, une relance keynésienne, on peut dire, des mesures sociales, mais qui finalement profite surtout aux partenaires économiques, à l'Allemagne, au Japon, aux États-Unis. La relance commerciale en France crée du déficit commercial. Ça produit une dévaluation de quasiment 10% à l'égard du mark en juin 82. Ça fait qu'on décide aussi un blocage des prix et des salaires. Donc là, de fait, le tandem Mauroy-Mitterrand a décidé de mettre en œuvre une politique de rigueur, une politique d'austérité.
Et je le dis aux Français, que je ne suis pas l'homme de la rigueur pour la rigueur. Ça n'aurait pas de sens. Je suis le chef d'un gouvernement où la politique de rigueur est au service de la justice et de la solidarité. où la politique de rigueur est une politique pour lutter contre les inégalités.
Mercredi 16 mars 1983, Laurent Fabius s'en va rencontrer François Mitterrand et lui faire le même tableau, lui dépeindre le même tableau apocalyptique quant aux conséquences d'une sortie du SME. Et là, Mitterrand, dans la foulée, le 16 mars, dans l'après-midi, convoque de nouveau son Premier ministre, Pierre Mauroy.
Je vous invite à penser à la formation d'un gouvernement dans le cadre du maintien dans le SME.
Mitterrand vient de basculer de l'autre côté. Il bascule du côté de l'orthodoxie et il invite Pierre Mauroy, qui approuve, qui est d'accord, à rester dans le SME et à préparer un nouveau gouvernement parce que ça risque de produire des démissions au sein du gouvernement que ce choix politique décisif. Donc là, il me semble que le 16 mars 1983, le débat est tranché dans le bureau de l'Élysée, mais c'est un choix qui demeure secret, qui demeure tu. Mitterrand intervient à la télévision une semaine plus tard, le 23 mars 1983, et c'est à ce moment-là qu'il fait part de son choix au pays.
Françaises, Français, au jour et à l'heure convenue, me voici devant vous, et pour vous dire où nous en sommes, où nous allons. Oui, cette politique est bonne pour qui sait les contraintes qu'impose un environnement international soumis à d'autres politiques économiques que la nôtre. Or, nous n'avons pas voulu et nous ne voulons pas isoler la France de la communauté européenne dont nous sommes partie prenante.
Là, le discours de François Mitterrand, c'est un discours moderne mais qui demeure un peu timide. Ceci dit, en filigrane, sans que ça soit affiché de cette manière-là, c'est un moment historique pour la France et pour la gauche, puisque là, manifestement, il renonce à deux outils. Le premier outil auquel il renonce, c'est la souveraineté monétaire. François Mitterrand renonce désormais à utiliser les dévaluations et les réévaluations pour gérer la monnaie en fonction des autres monnaies, donc c'est un moment clé. Et le deuxième point, c'est la souveraineté commerciale. Il renonce à ce moment-là à mettre en œuvre du protectionnisme pour réguler les échanges commerciaux et pour opérer à nouveau une relance keynésienne en France éventuellement. Ce sont deux hypothèses qui sont écartées à ce moment-là et qui, me semble-t-il, pour le Parti Socialiste, sont écartées définitivement. Les observateurs politiques du moment sont bien conscients d'avoir vécu là des jours décisifs pour la gauche et pour la France. Je citerai juste François-Xavier Stas, qui est alors conseiller économique à l'Élysée, et qui écrit ça deux jours plus tard.
Je me souviens parfaitement de la réunion du cabinet du 25 mars. Nous avions tous le sentiment que nous étions en train de changer d'époque, que la gauche avait fait le saut dans le réalisme économique, que c'était irréversible.
Pour traduire ce choix aux militants, aux électeurs socialistes, Lionel Jospin parle à l'époque de parenthèse. Il dit que bon, le Parti Socialiste ouvre une parenthèse libérale. On peut constater qu'on n'en est toujours pas sorti. Mais surtout, dès ce moment-là, dès le moment du choix de Mitterrand, un certain nombre d'acteurs et d'observateurs ont perçu qu'il ne s'agissait pas d'une parenthèse, mais que c'était un choix décisif pour l'avenir de la gauche et de la France.
Et l'histoire, je le répète, nous jugera d'autant plus sévèrement que le peuple, en 1981, nous a donné toutes les responsabilités, que nous n'avons aucune des excuses qui pouvaient être celles du Front populaire. Beaucoup d'entre vous me diront, mais qu'est-ce que vous proposez? Bien sûr. Eh bien, je vous invite d'abord à relire le projet socialiste, c'est plein d'idées. S'agit-il d'une parenthèse, comme l'a dit Lionel Jospin, d'un moment, comme l'a dit André Léniel? On pourrait effectivement le souhaiter, mais il y a beaucoup de signes du contraire. On croit quelquefois ouvrir une parenthèse, chers camarades. Et puis, on s'aperçoit que c'est un virage. Et si nous ne réagissons pas, bientôt, il prendra la figure du destin.
On continue le fil rose du jour, on était resté sur Tonton Mitterrand, le premier fossoyeur du Parti Socialiste, élu en 1981, puis une nouvelle fois en 1988, il va laisser la place à son grand ami Jacques Chirac, président lui de 1995 à 2007, puis Sarkozy qui quittera ses fonctions en 2012. 2012, élection présidentielle, et c'est François Hollande contre toute attente qui représente le Parti Socialiste à cette élection. Lui, l'homme du compromis, un peu mou, au sein de son parti, remporte l'élection avec un programme très social-démocrate, mais qui veut taper quand même un peu sur le monde de la finance, parce que ça fait toujours son petit effet sur le peuple de gauche, ce genre d'annonce. 2012, le changement c'était maintenant, c'était son slogan, et bien ce changement de politique, il n'en fut pas question. Si ce n'est qu'après 5 ans de Hollande, le PS était en effet définitivement rangé dans la catégorie des anciens partis de gauche. Hollande, le deuxième fossoyeur du PS et de toute la gauche après Mitterrand, la même espérance, la même désillusion, et son mandat va marquer le déclin de toute la gauche et du Parti Socialiste. On écoutera ensuite les goguettes. À toutes.
Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais moi, je vous ai entendu. J'ai entendu votre volonté de changement. J'ai entendu votre force, votre espérance. Et je veux vous exprimer toute ma gratitude. Merci. Merci. Merci, peuple de France, ici rassemblé, de m'avoir permis d'être votre président de la République. Je sais ce que beaucoup ressentent, des années et des années de blessures, de ruptures, de brûlures, et il nous faudra réparer, redresser, rassembler, c'est ce que nous allons faire ensemble pendant 5 ans. Je veux vous dire mon émotion d'être celui qui peut vous représenter, celui auquel vous avez confié la responsabilité du pays. Je veux aussi vous dire ma fierté d'être le président de la République, de tous les citoyens, égaux en droit et en devoir. La fierté de cette France que vous offrez, la France de la diversité et de l'unité, rassemblée, réunie. Ma fierté aussi, 31 ans après, 31 ans, jour pour jour, ici à la Bastille, d'avoir permis que la gauche ait un successeur à François Mitterrand. Merci. Merci à tous.
Alors une goguette pour laquelle il va falloir faire un tout petit effort d'imagination, puisque je suis François Hollande. Ça va aller. Non, je n'y crois plus. Je ne simule plus. Je ne me mens même plus à moi-même. Depuis bientôt 4 ans que je suis président, je peux plus faire semblant. Ça me pose problème. Il faut que je vous confesse que toutes mes belles promesses, toutes mes belles idées, je m'en foutais. Il est temps maintenant de vous le dire franchement. Il faut que je vous avoue, ce n'est plus tabou, je suis de droite, complètement de droite, à faire pâlir de jalousie, Fillon, Copé, Vauquier, Juppé et Sarkozy, je suis de droite, parfaitement de droite, j'en fais voir de toutes les couleurs. Au rouge, au vert et même au rose. Et tant pis si pour les frondeurs, je trahis la cause. Mon gouvernement file droit maintenant. Le capitaine s'appelle Manuel. Tel un Apollon, j'ai placé Macron en figure de proue. Oui, rien que pour vous et pour pas qu'on chavire, c'est super que Taubira quitte le navire. Je respire à mon équipage, j'envoie ce message. Les vents soufflent fort, toute barre à tribord. Je suis de droite, complètement de droite. J'en ai déçu des gros balous. Amont, Duflo, Philippe Petit et Montebourg.
Tu es de droite.
C'est ça.
C'est ça.
Je suis de droite. La déchéance, ils en rêvaient. Eh bien, c'est moi qui l'aurais fait. Car j'ai le cœur complètement à droite. Je le chante et ça m'éclate. Je suis de droite.
C'est les trois quarts des Français. Les sourcils foncés, peu, va pas dégonfler, non. Tu peux les enfler, essaie d'exploiter les travers qu'il y a dans le droit. Envoie le 49-3. Si les représentés ne sont pas des gens très sensés, ne veulent pas comprendre ce que leurs représentants leur ont présenté, n'ont pas l'air présentés de chemin, ne veulent pas prendre le droit. Envoie le 49-3. Si tu concoctes une loi qui est bien, que les gens ne voient pas, c'est rien. Ne m'en veux pas de ces biens, qu'ils ont peu de poids. À défaut que soit crétin et qu'un tas de gens te croient. Envoie le 49-3. S'ils veulent pas t'écouter, si t'es dégoûté, si t'es dérouté par le fait que t'es douté qu'ils pourraient débouter ta plan de là, envoie le 49-3. Et si faut les berner, les cerner, bref gouverner. Mais s'ils veulent pas se fermer, de faire la guerre et que t'es consterné, c'est là, tu le vois, qu'il faut que tu l'envoies le 49-3. Dis-la François.
Le 49-3 est une brutalité.
Ouais.
Brutalité.
Ouais.
Brutalité.
Ouais.
Le 49-3 est une brutalité.
Ouais.
Brutalité.
Ah, ok, à moi. Si le peuple ne veut pas se laisser soumettre, s'il se peut qu'il ne veuille pas Dieu ou de maître, s'il conteste.
Au nom de la patrie.
recherche du groove perdu, session numéro 391, quatrième émission du cycle intitulé « C'est Kiki qu'on va voter pour ?» Et cette semaine, on vote à gauche. On vote la main sur le cœur et la rose dans la bouche Hidalgo, Jadot, Roussel et Mélenchon, ou Mélenchon jusqu'à présent. On a parlé du principal parti qui incarne cette gauche de gouvernement, le Parti Socialiste. Et ses fossoyeurs Mitterrand et Hollande, maintenant, place aux affaires judiciaires, elles aussi nombreuses, qui ont éclaboussé le Parti Socialiste et par ricochet toute la gauche dans les années 80 et 90. Eux aussi prenaient l'exemplarité et plein de belles valeurs, mais dans les faits, les politicards mafieux de droite n'ont rien à envier à leurs homologues d'en face. 1982, c'est le scandale des écoutes. 1984, 20 millions de francs sont détournés dans le cadre de l'affaire du Carrefour du Développement. 1985, le Rainbow Warrior bateau de Greenpeace explose. Le 10 juillet de cette même année, dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, l'ONG préparait alors une campagne contre les essais nucléaires français. On apprendra plus tard que l'attentat a été perpétré par les services secrets français. 1988, c'est l'affaire Péchinet. 1989... l'affaire Urba qui met à jour le système occulte de financement du PS depuis 1973. Cette affaire mêle notamment Henri Manuali, président de l'Assemblée nationale. Il est inculpé en 92 de recel et de complicité de trafic d'influence. En 1996, il est condamné à 18 mois de prison avec sursis, 30 000 francs d'amende et 2 ans de privation des droits civiques. 1991, c'est le scandale du sang contaminé. Des centaines de personnes sont contaminés par le sida et l'hépatite C en recevant des dérivés sanguins et des transfusions de sang mal contrôlées. Les dirigeants des établissements de transfusion, Fabius, Premier ministre, Georgina Dufoy, ministre des Affaires sociales, et Edmond Hervé, secrétaire d'État à la Santé, sont mis en cause, mais tout ce petit monde sera relaxé pour le plus grand plaisir des familles concernés par ces contaminations. 1992, c'est l'affaire Bérégovoy. Premier ministre de Mitterrand, il est impliqué dans une affaire judiciaire qui va ternir son image. Il a bénéficié d'un prêt d'un million de francs, ce qui équivaut à 150 000 euros aujourd'hui, sans intérêt, pour acquérir un appart dans le 15e arrondissement de Paris. Le Premier ministre, chantre de la lutte contre la corruption, ne supporte pas cette suspicion et met fin à ses jours. Le 1er mai 1993, c'est la version officielle. Allez, on avance toujours et encore plus d'intégrité et exemplarité. 1994, l'affaire Elf, le scandale financier numéro 1 de la France-Afrique. Détournement de fonds de plusieurs millions d'euros entre 1989 et 1993. 1998, affaire de la MNEF, détournement de fonds encore une fois, sous forme d'enrichissement personnel et d'emplois fictifs qui ont bénéficié à des membres du Parti Socialiste. Y sont mêlés notamment Cambadélis et Strauss-Kahn. Décembre 2012, quelques mois après le début du mandat Hollande, c'est l'affaire Cahuzac. Un compte caché en Suisse pour un ministre du budget qui est censé lutter contre l'évasion fiscale. Ça, c'est pas mal. Et rien que pour ça, voilà un petit rappel des faits. C'est parti.
Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1. Plongé dans les archives d'Europe 1. Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour.
Aujourd'hui s'ouvre le procès d'Alain Grisel, ministre délégué au PME. Il comparaît pour déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale. C'est la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui a saisi la justice. Alors en fouillant dans le grenier d'Europe 1, Johanna, vous avez retrouvé les archives du jour où l'on a créé cette autorité. C'était à l'occasion de l'affaire Cahuzac en 2012.
Oui, en décembre 2012, nos confrères de Mediapart révèlent que Jérôme Cahuzac, à l'époque ministre du budget, aurait détenu un compte non déclaré en Suisse avant de le fermer début 2010. Le ministre nie en bloc, mais Mediapart ne lâche pas l'affaire. Il sort un enregistrement où Jérôme Cahuzac parle lui-même de ce compte. Le ministre fait la tournée des médias pour dire, les yeux dans les yeux, qu'il est innocent, comme ici face à Jean-Pierre Elkabbach.
Ça ne peut pas être moi, puisque je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. J'ai nié en bloc et en détail chaque membre du gouvernement dès lors qu'il rentre au gouvernement. Fait l'objet d'une vérification fiscale. Elles ont été faites.
Alors à l'époque, Jérôme Cahuzac a beau parler, l'étau se resserre jusqu'à ce que la vérité éclate.
Oui, et ça va très Très vite, en janvier, une enquête préliminaire est ouverte pour blanchiment et fraude fiscale. En mars, le parquet requiert l'ouverture d'une information judiciaire. Jérôme Cahuzac démissionne quelques heures plus tard. Le ministre est toujours soutenu par le gouvernement, mais c'est à peine deux semaines après, le 2 avril 2013, qu'il avoue tout sur son blog. Il a bien possédé un compte non déclaré en Suisse. Walid Berissoul lit son communiqué sur Europe 1.
À mes anciens collègues du gouvernement, je demande pardon pour le dommage que je leur ai causé. Aux Françaises et aux Français, j'exprime mes plus profonds regrets. Voilà, ce sont là les écrits rarissimes d'un homme politique de premier plan qui reconnaît avoir été pris dans, je cite, « une spirale du mensonge ».
Alors ces aveux, on les fait d'une bombe jaune. Hein.
Oui, déjà à l'Assemblée, c'est un véritable scandale. Les débats sont houleux, véhéments. Mais c'est auprès des Français que le choc est le plus fort. La parole politique, déjà fragilisée et décrédibilisée.
Les gens sont démotivés total, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'exemplarité, on ne peut pas être au budget, s'occuper des fraudeurs et frauder soi-même. Non, et les gens sont vraiment dégoûtés.
Voilà, et ça va forcer François Hollande à réagir. Hein.
Oui, c'est la course à la transparence. François Hollande prend la parole dès le lendemain des aveux de Jérôme Cahuzac pour faire part de son effroi, mais aussi annoncer des mesures à venir.
C'est un choc ce qui vient de se produire, parce que c'est un grave manquement à la morale républicaine. La défaillance d'un homme doit nous rendre encore plus exigeants, plus intransigeants. Et je le serai, l'exemplarité des responsables publics sera totale. C'est mon engagement, je n'en dévierai pas et les Français doivent en être certains.
Parmi ces mesures, les ministres doivent publier rapidement leur déclaration de patrimoine et le gouvernement crée en octobre 2013 cette haute autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est chargée de contrôler et publier les déclarations patrimoniales des élus et peut notamment saisir la justice.
Merci Johanna Chabas.
De quoi s'agit-il ? La fraude fiscale dont on parle en Europe est deux fois supérieure à la dette de tous les pays de la zone euro. Deux fois supérieure. Deux fois supérieure. Deux fois supérieure. Faut comprendre ça pour les Français. Parce que normalement, ça devrait faire la une de tous les médias pendant des jours et des jours. La crise est résolue. Le chômage est résolu. Nous n'avons pas besoin de prendre 9 milliards à la sécurité sociale, 11 milliards aux collectivités territoriales, de baisser de 50 milliards les besoins sociaux dans le budget prochain. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. La crise est résolue. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs. La crise est résolue. Il suffit de reprendre l'argent aux voleurs.
Après le PS, le Parti communiste, autrefois très influent lorsque le syndicalisme et les luttes ouvrières étaient encore une épine dans le pied du patronat, le Parti communiste est devenu un parti minoritaire dans le paysage politique français, voire ultra minoritaire. La dégringolade du parti en France suit celle du bloc qu'elle soutenait. L'URSS, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au présidentiel de 1969, par exemple, le candidat communiste réunissait 21% des suffrages exprimés, près de 5 millions d'électeurs. Au présidentiel de 1981, Marchais faisait un score de 15% et réunissait 4,5 millions d'électeurs au second tour. En 1995, Robert Hue fait encore un score honorable avec un peu plus de 8% des suffrages exprimés, soit 2,5 millions d'électeurs. Et puis en 2007, dernier représentant communiste au présidentiel avant 2022, Marie-Georges Buffet, qui fait, elle, 2% des suffrages exprimés avec un peu plus de 700 000 électeurs. Roussel fera-t-il mieux ? On est en droit de se poser la question.
Clément Viktorovitch qui se penche ce soir sur les mots de Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste à la présidentielle, qui bénéficie actuellement d'une petite embellie dans les sondages. Ce qui nous amène à nous poser cette question, Clément, est-ce dû à une évolution de sa rhétorique ?
Il semblerait bien qu'il y ait un moment Roussel. Le candidat du Parti communiste est indéniablement visible dans le débat public, alors que certains de ses concurrents à gauche peinent encore à se faire entendre. Et en effet, cette dynamique va de pair avec une certaine évolution de sa rhétorique. Il était ce matin l'invité de France Inter et, premier changement notable, il y a un mot qu'il semble désormais fuir comme la peste, le mot de communiste.
Je suis le candidat de la France des jours heureux, présenté et soutenu par ma formation politique, mais aussi soutenu par des dizaines de milliers de personnes d'horizons divers, sans étiquette politique. Et je souhaite, moi, présenter mon programme à la France et incarner une France populaire, généreuse, solidaire.
Vous l'entendez, Fabien Roussel met en avant le nom de son programme, la France des jours heureux. Il revendique d'être soutenu par des milliers de personnes sans étiquette politique. Et au milieu de tout cela, du bout des lèvres seulement, il parle de sa formation politique, mais sans la nommer.
C'est une stratégie ?
Oui, clairement. Le problème du mot communiste, c'est qu'il est connoté, il faut le dire, de manière péjorative. Dans l'imaginaire collectif, il renvoie encore, à tort ou à raison, au régime soviétique et à ses crimes. Dans une telle situation, il y a deux stratégies rhétoriques possibles. La première, c'est la redéfinition. Elle consiste à se battre sur le mot pour le vider progressivement de ses connotations négatives. Le problème, c'est que ça prend du temps. Fabien Roussel a donc choisi l'autre option, la substitution, qui consiste à abandonner le mot incriminé en race campagne pour lui en préférer d'autres aux connotations plus neutres.
On a entendu dans votre extrait Fabien Roussel vouloir incarner une France populaire, généreuse et solidaire. C'est un vocabulaire habituel, ça, pour un candidat communiste ?
Bah oui, ce sont des totems de la gauche, mais ce qui frappe chez Fabien Roussel, c'est la place que ce type de mot prend dans son discours.
Je veux des réformes heureuses. Je veux croire au bonheur parce que c'est possible. C'est la justice sociale, la justice fiscale, c'est le sens du partage et de la solidarité, c'est le droit au beau, au bon et au propre. C'est le cœur de mon combat, c'est de défendre la France qui travaille, la France de la bonne paye, la France de la dignité.
Des réformes heureuses, la justice sociale et fiscale, le sens du partage, le droit au beau, au bon, au propre, la France de la bonne paye et de la dignité, c'est beau. C'est beau et je pense qu'absolument tout le monde y souscrira, ce qui pose bien sûr un problème. Puisque dans le champ politique, les seuls discours avec lesquels tout le monde peut être d'accord sont ceux qui ne disent rien à personne. Fabien Roussel se contente ici de jongler avec un chapelet de concepts mobilisateurs, ces mots creux et vides de sens qui n'ont d'autre objectif que celui de mobiliser l'enthousiasme des auditeurs. On voit que le travail de substitution opéré va plus loin que le seul mot communiste. C'est l'ensemble des marqueurs idéologiques, révolutionnaires et même anticapitalistes qui ont été expurgés du discours.
Est-ce que vous avez trouvé des marques d'originalité dans son discours ?
Alors, c'est une bonne question, puisque à force de substitution, le discours de Fabien Roussel peut finir par manquer de singularité. Il pivote désormais sur une rhétorique de gauche assez classique. Mais justement, Fabien Roussel semble avoir trouvé de quoi se distinguer avec le bon vin, la bonne viande et même la bonne baguette.
Quand on donne 200 à 300 euros de plus à un citoyen, un salarié, un retraité,
c'est de la consommation.
Il ne va pas le mettre dans les paradis fiscaux, lui. Il va servir le pays. Il va aller dépenser son argent dans une bonne baguette, dans un bon resto, dans une expo. J'en ai marre, moi, d'une gauche qui vous culpabilise quand vous prenez la voiture, quand vous prenez l'avion, quand vous mangez de la viande.
Bon, alors souvenez-vous, hein, l'origine de cette expression, c'était une saillie de Fabien Roussel lors de l'émission Dimanche en politique, en janvier dernier, dans laquelle il revendiquait de vouloir rendre accessible le bon vin, la bonne viande et le bon fromage. C'est depuis devenu sa signature rhétorique, il l'évoque à chaque interview. Et c'est plutôt habile en fait, ça lui permet de se distinguer de toute une partie de la gauche qui plaide, elle, pour une alimentation moins carnée et songe à nos concitoyens qui ne boivent pas d'alcool, tout en parlant aux électeurs populaires qui justement ne se retrouvent pas dans ses discours. Reste bien sûr cette question centrale. Remplacer la lutte des classes par l'éloge de la bonne bouffe, c'est peut-être efficace rhétoriquement, mais est-ce vraiment cela le cœur du discours communiste ?
Voilà, peut-on ouvrir un nouvel onglet rhétorique en taillant bavette autour ?
Financiers, actionnaires de tous les pays, unissez-vous. Les nantis de la terre, debout ceux qui n'ont jamais faim. Le champagne hurle dans nos verres, c'est le cocktail de la faim. Du buffet faisons table rase, les toasts debout, debout. Merci. La plèbe patauge dans la vase, ils ne sont rien, restons tout. C'est la flûte. Racontons où c'est demain. L'évasion fiscale sauvera le genre humain. C'est la flûte finale. Racontons où c'est demain.
Ce soir, 20h30 dans Reporter. Le témoignage exclusif d'hommes frappés par le mal le plus significatif de cette fin de siècle.
Disons que... On se sent plus comme les autres, quoi. C'est plus pareil, quoi. On n'est plus pareil, plus comme avant, quoi.
Et les autres, quand ils l'ont su
Disons que dès que les autres ils l'ont su, forcément ils m'ont rejeté tout de suite, quoi. J'étais tout de suite rejeté, quoi.
C'est dur d'être montré comme ça du doigt.
Disons que ça fait mal, quoi. Ça fait mal.
Et votre femme, quand elle l'a su, comment l'a-t-elle pris? Elle vous a aidé?
Disons que ma femme, au début, elle a quand même... elle était pas au courant, quoi. Je disais pas, j'ai caché. Mais quand elle l'a su, quoi, au départ, elle a essayé de faire quelque chose, quoi. Elle a essayé de m'aider. Hein.
Et elle aussi, elle a été...
Non, heureusement, non. Non, mais c'est quand même elle qui a tout découvert, le pot des roses et tout, parce qu'un jour, elle le savait pas et tout, mais bon, elle a fouillé dans mes affaires et là, il y avait ma carte, quoi. Alors forcément, bon, elle a regardé la carte et elle a tout compris, quoi.
Et là, maintenant, vous n'êtes plus?
Ah non, là, c'est fini. Enfin, ouais, c'est fini.
Tous les autres n'ont peut-être pas autant de volonté que vous.
C'est pour ça qu'on a fondé une association d'aide aux anciens communistes. Et à ce niveau, il faut dire qu'on a bien été aidé par le Front National, que je remercie au passage. Vraiment.
Mais vous, vous ne désespérez pas, vous gardez confiance.
Il faut jusqu'au bout, faut se battre. Faut se dire qu'on peut s'en sortir. Et c'est pour ça que si je peux permettre d'adresser un message aux ex-camarades comme La Joignie ou Marché, je leur dis courage, quoi. On peut y arriver, quoi.
Ils peuvent s'en sortir.
Ouais. Et puis il faut.
Alors, dans quel état est la gauche en 2022 avant les élections? Je dirais dans un état lamentable, laminé par 40 ans de mitterrandisme, d'affaires et de casseroles judiciaires que j'ai rappelé tout à l'heure, par un oubli progressif de l'enjeu de lutte des classes au profit d'un monde où on est tous collaborateurs, laminé par un rouleau compresseur néolibéral et puis, dernièrement, par un mandat de François Hollande, 5 années qui n'ont fait qu'accroître cette confusion dans beaucoup d'esprits entre gauche et droite, puisque Hollande a fait la même chose que Sarkozy sur le plan économique, Qui vote encore cette pseudo-gauche plus proche des centristes libéraux en réalité que des travailleurs pauvres? Qui vote encore PS ou écologie? Les Verts, eh bien, pas grand monde à part les bobos et les bourgeois de la gauche bien pensante des grandes villes et métropoles. Ça fait du monde, c'est vrai, puisque les urbains sont plus nombreux. Mais ces courants politiques ne sont absolument pas dynamiques et vivants en milieu rural, absolument pas représentants en tout cas de cette frange. De cette frange de la population, la gauche mollassonne rose et verte est donc cantonnée uniquement dans les grandes villes et absente des campagnes. Petit rappel de cette confusion dont souffre actuellement la gauche et qui n'a fait que s'accroître avec l'élection de Macron en 2017. On écoute l'écrivain et scénariste François Bégaudeau à ce sujet. Il est au micro de Frédéric Taddeï en septembre 2021 dans son émission « Il est interdit d'interdire ». C'est parti.
De ces, la confusion des confusions de ces trois ou quatre dernières décennies, c'est qu'une certaine gauche que je brocardais beaucoup dans l'histoire de ta bêtise, une gauche qui a beaucoup voté PS, une gauche centre-gauche qui s'est précipitée dans le macronisme en 2017, a longtemps été considérée par ces gens-là, les gens dont on parle, comme la gauche. C'était ça, la gauche. La gauche, c'était SOS Racisme. C'était BHL dans les années 80. C'était tout ça. Mais... je veux dire, ces gens-là ont toujours été considérés par la gauche de gauche comme n'étant pas de gauche. Mais donc, effectivement, ça a complètement injecté dans le cerveau de ces jeunes gens l'idée que la gauche, c'est des espèces de donneurs de leçons avec une petite main sur la veste pour dire que c'est pas bien le racisme. Ou des gens qui font du marketing féministe, ou des gens qui font la gay pride, ou des choses comme ça. C'est-à-dire autant de, comment dire, de protubérances folkloriques d'enjeux sociétaux auxquels je tiens beaucoup par ailleurs. Les luttes de minorités sont absolument centrales dans mon imaginaire à moi, en tout cas dans mon paysage politique. Mais elles ont parfois été, captées aussi par une certaine gauche bien-pensante bourgeoise, et de la pire des manières, sur le mode effectivement du sermon moral. Alors que moi, je me considère, et je pense que c'est le premier geste de Marx d'ailleurs, le premier geste intellectuel de Marx, c'est de dire, c'est d'en finir avec des positionnements moraux de la gauche, ce qu'il appelait les hegeliens de gauche à l'époque. C'est ça le premier geste. Donc la gauche marxiste n'est pas morale, précisément pas. Or, ces gens-là, effectivement, ça leur a échappé. Ça leur a échappé qu'il existait une gauche qui ne pouvait pas être taxée de bien-pensante et de donneuse de leçons, qui était la gauche marxiste. Ça leur a échappé parce que cette gauche-là, elle a été très largement mise sous le tapis dans les années 80, 90, 2000. Bon, pour des raisons objectives, par des raisons de fatigue interne et intrinsèque. Aussi parce qu'il y a eu quand même une grande entreprise d'évacuation totale du discours communiste de l'espace public. On est presque contemporains, vous et moi, donc on a bien connu ça dans les années 80-90. Quoi. Je veux dire,
il y avait c'est la disparition de la lutte des classes.
Oui, mais même dans les discours, il était absolument impossible de reconvoquer le lexique marxiste ou le lexique de la lutte des classes. Quoi. C'était interdit, puisque l'URSS avait perdu, puis de toute façon on connaissait les carnages du goulag, bon, tout à fait légitime d'ailleurs. Bon, donc effectivement... les jeunes qui se sont formés politiquement dans les années 2000, ils n'ont pas eu à disposition ce discours-là. Et donc, ils ont amalgamé cette gauche, qui est maintenant d'ailleurs très largement, qui a fait son coming out de droite, hein, de centre-droit et de libéral, ils ont amalgamé cette gauche-là et la gauche en général. Et effectivement, ça ne les a pas rendus extrêmement bienveillants vis-à-vis de ce qu'eux considéraient comme la gauche. C'est une des explications, il y en a évidemment plein d'autres. Hein,
Il est mort, il est mort le PS, quand tu l'as quitté, quand t'as pas voté. SOS parti en détresse. Il est mort, il est mort le PS. Valls l'a répété, le PS est mort, et l'assassin court encore. Hier, nous chantions place de la Bastille, avec dans le regard quelque chose qui brille. La finance ne faisait pas la fière, c'était hier. Il est mort, il est mort le PS. Ce soir il se vautre, à qui la faute?
C'est pas moi.
Allez, soyons fous, et si la gauche gagnait en avril 2022 prochain, Mélenchon, de loin le mieux placé dans les sondages à gauche, devancerait les Le Pen, Zemmour et autres Pécresse pour affronter Manu au deuxième tour, et puis aurait soudain un sursaut électoral au deuxième tour avec tous les abstentionnistes orthodoxes qui glisseraient leur bulletin Mélenchon pour avoir une nouvelle constitution et une 6ème république où le vote blanc nul et l'abstention seraient vraiment pris en compte. Résultat au deuxième tour, Méluche élu à 52% contre 48%. C'est peu probable, c'est vrai, mais si ça arrivait, quand bien même, voici ce qui pourrait se passer selon l'économiste Frédéric Lordon. On se quitte là-dessus, sur cette hypothétique victoire de Mélenchon et ses conséquences. On se retrouve la semaine prochaine avec cette fois-ci l'extrême gauche. C'était la recherche du groupe perdu, Frédéric Lordon, et ensuite Max Romeo, War in a Babylon, à la semaine prochaine.
Moi, je me suis livré dans cet ouvrage à une sorte d'expérience de pensée qui imagine l'arrivée d'un gouvernement de gauche. Alors, bon, tournons pas autour du pot. Hein. On imagine, voilà, il y a un gouvernement, la France insoumise, et il y a un président Mélenchon. Il se retrouve au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Alors, je suis désolé, je ne suis pas porteur de bonnes nouvelles. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement est torché en 2 semaines. Et encore, estimation large, c'est le haut de la fourchette, hein, optimiste. Et oui. Pour une raison extrêmement simple, c'est que les forces les plus colossales du capital et du capitalisme se déchaîneraient contre lui, à commencer par les forces du capitalisme financier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois d'avril 2017, lorsque l'hypothèse, le caractère se resserrait avec une hypothèse, Mélenchon au deuxième tour a commencé à prendre consistance, on a vu aussitôt l'inquiétude gagner les marchés financiers et les spreads de taux avec l'Allemagne s'ouvrir. Bon. Alors, c'est une crainte qui a reflué, etc., etc. Mais il faut imaginer une configuration dans laquelle, voilà, Mélenchon, Le Pen au deuxième tour, bon, globalement, oui, c'est Mélenchon qui va passer. Mais alors là, ça serait une furie. Si vous voulez, les marchés financiers fixeraient les taux d'intérêt à un niveau qui mettrait la politique économique de Mélenchon échec et mat. Avant même qu'il pose une fesse dans son fauteuil. Donc, si vous voulez, c'est tout à fait considérable, hein. Le taux d'intérêt vous sabote instantanément tous vos efforts de politique économique. Ce serait une tempête spéculative dont on ne peut même pas imaginer la force. Alors, il faut se rappeler de ce qui avait eu lieu en 1983, par exemple, et multiplié par 500. Parce qu'entre-temps, vous savez, la déréglementation des marchés de capitaux a fait du chemin. Les masses ont été centuplées. Donc c'est des effets d'une puissance terrible. Et je ne parle que de ça, mais il faudrait parler d'autres choses qui sont évoquées par certaines des personnes qui m'interrogent, à savoir le sabotage de l'investissement par le capital industriel, les médias absolument déchaînés, glapissant comme des putois tout à longueur de journée que la France est en faillite, pour ne rien dire des menées de l'État profond. Enfin, vraiment, ça serait une hostilité quasiment insurmontable qui aurait pour effet de reconduire ce gouvernement de gauche, à un point de bifurcation radical qui n'est pas autre chose que celui par lequel est passé Alexis Tsipras en 2015, mais alors dans des proportions et des intensités démultipliées, point de bifurcation d'où il n'y a que deux issues et deux seulement, à savoir s'affaler ou bien passer à autre chose. Mais qu'est-ce que c'est que cette autre chose? Bon, c'est là que c'est compliqué, n'est-ce pas? Ah, cette autre chose, c'est celui, il faut dire les choses clairement, cette autre chose, c'est la guerre à outrance telle qu'elle aurait été ouverte par les forces du capital, par les forces de ce qu'il faut bien appeler, d'un mot ancien, hein, la réaction, je veux dire, si vous voulez, c'est la forme historique de la contemporaine de la réaction, hein, c'est ça, qui lâcherait absolument tout, de sorte que cette expérience serait reconduite à une alternative de vie ou de mort, ni plus ni moins. Et alors là, ça précipite en effet dans des enchaînements historiques qui sont tout à fait... On sort de toute la normalité politique et institutionnelle celle dont nous avons l'habitude. Donc c'est, on ne contemple pas ce genre de perspective sans un certain tremblement, n'est-ce pas? C'est, voilà. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, ce que je crois profondément, c'est que ce sont toujours les dominants dans l'histoire qui fixent le niveau de la violence. Voilà.
War in a Babylon, tribal war in a Babylon. Look at that, discipline out there.